Dans la chambre de Hitler, par Yvan Bjarn. Berlin, janvier. Je me tiens debout à côté du lit de Hitler, et je regarde autour de moi dans sa chambre à coucher, et tout naturellement, je pense, je dormirai bien ici. Cette simplicité me plaît. Avec ses meubles en bois de bouleau clair et son lit étroit, cette pièce n'a rien de voluptueux ni de somptueux. Elle est la chambre à coucher d'un homme qui a un peu d'argent et beaucoup de goût. Au-dessus de la tête du lit, son propriétaire a mis le portrait de sa mère. En face sourit une jeune fille qui lui ressemble, sa nièce décédée. Une table, un bahut, deux ou trois tableaux du peintre von Menzel, romantique et même un peu mystique. Mais ne croyez pas que Hitler soit au lit. Il ne s'est jamais mieux porté que maintenant. Pourtant, il doit venir. Son ami, le docteur H, m'a dit que je suis le premier journaliste qui ait visité l'appartement privé du Führer. Me l'affirme. Il y a aussi beaucoup de livres sur la table et sur les chaises. Non des riches reliures, mais les dernières nouveautés, surtout les œuvres des jeunes. Un léger désordre, comme dans ma propre chambre à coucher. Décidément, je serais resté dans l'atmosphère calme et reposante de celle de Hitler si le docteur H, en guide avisé, ne m'avait dit « Ne vous endormez pas ». Bien que l'appartement ne soit pas très grand, il y a quand même d'autres pièces à visiter. C'est d'ailleurs vrai que l'appartement au troisième étage de la Reichskanzlerei n'est pas très grand. Il y a des centaines de Berlinois qui sont aussi bien logés, et même mieux. Le pouvoir n'a pas grisé l'ancien maçon, qui est fier de son passé. Il est logé confortablement, voilà tout. Le bureau où il s'enferme souvent pendant de longues heures pour travailler est pareil aux autres pièces, d'une grande simplicité naturelle. Une gravure sur le bureau, Frédéric le Grand. Un tableau sur le mur, Frédéric le Grand. Salle à manger en bois clair avec une grande table autour de laquelle sont placées peu militairement 14 chaises. Une corbeille pleine de petits fours sur le buffet, des petits fours exquis. Deux salons et deux couloirs. Deux pièces pour la garde. Deux jeunes et fiers nazis. Une grande cuisine. Mais je ne crois pas que le chef cuisinier soit surmené. Hitler est végétarien. Il ne boit que de l'eau et ne fume pas. Et c'est tout. Il y a de tout petits banquiers qui trouveraient cet appartement trop étroit. Hitler l'aime bien. Mais quand viendra Hitler? Le docteur H ne m'entend pas. Il s'est mis au piano et joue en souriant des opéras italiens qu'aime son grand ami. Le docteur H n'a rien d'un officier prussien ni d'un Geheimrat. Il est musicien. Et Hitler l'a nommé chef d'un bureau important. Il est aussi l'âme et le directeur d'un club berlinois de nuit. Et quand il passe quelques jours à Paris, il partage son temps entre la coupole, les tapisseries de Cluny, les tableaux de Lenin, Manet et Degas au Louvre et les concerts colonnes. Les plis de ses pantalons ont été faits à Munich, il y a bien longtemps. Un chef de cabinet socialiste est autrement élégant. Il rit, il sait pas mal d'histoires salées. Il est du midi. Jamais il n'aurait l'idée d'écrire le mot culture, Kultur. Il croit en son pays, il croit en Hitler. Mais croit-il en Hitler? Après une semaine à Berlin, je me disais, les Allemands croient en Hitler. Aujourd'hui, après avoir fréquenté des Allemands de toutes les classes, je crois plus sage de dire, les Allemands aiment Hitler. Le docteur H aime Hitler. Pourquoi cet amour? La raison principale est, pour les gens du peuple, que leur idole est restée elle-même pendant ces 10 dernières années. Hitler n'a jamais changé. La gloire ne lui a pas tourné la tête. On dit dans les rues de Berlin, devant ses portraits qui ornent les vitrines, il s'en moque de sa réussite personnelle. Et surtout, il ne fait pas de chichi. L'homme du peuple aime aussi savoir qu'il est végétarien et ne boit pas de vin. Il est réconfortant pour des gens qui sont privés de poulet et de champagne depuis quelques années, d'être certain que le dictateur mange des pommes de terre et boit de l'eau. Mais quand viendra Hitler? Il ne viendra pas du tout. Le téléphone nous apprend que Hitler est allé prendre le thé au Kaiserhof. « Allons-y, » dit le docteur H. L'hôtel somptueux où habitaient autrefois les riches agrariens de l'Est quand ils rendaient visite au Kaiser, à Berlin, n'est pas gardé militairement. Mais 8 petits anges de chasseurs d'hôtel, blonds et mignons, nous saluent à la porte, le bras droit en l'air, et ils sourient gaiement. Ces 8 sourires sont les plus beaux que j'ai vus à Berlin. Ils sont très fiers, ces gosses. Le Führer sirote le thé dans le hall où je ne vois qu'un seul uniforme, le sien. Pas beaucoup de monde. Il y a une table libre à côté de lui. Le docteur H m'entraîne, salue Hitler et sa petite compagnie, quelques hauts fonctionnaires, et une jeune et jolie femme, mais il ne me présente pas. C'est que la situation, ma situation, est assez délicate. Est-ce que je suis l'invité de Hitler? Peut-être. Est-ce que je suis journaliste? Oui. Et voilà ce qui gâte tout. Car Hitler s'est promis de ne pas parler aux journalistes étrangers pendant quelque temps. Mais peut-être les choses s'arrangeront-elles? Le plus grand diplomate d'Allemagne n'est-il pas là pour trancher subtilement toutes les difficultés? Il s'adresse donc au docteur H. Dis donc, mon vieux, tu oublies de commander du thé. Sache qu'on ne doit pas penser que nous manquons de savoir-vivre en Allemagne. Pendant ce temps, je regarde Hitler. Ce n'est pas vrai ce que va faire croire Sennep, dont Hitler savoure d'ailleurs les dessins. Ce n'est pas vrai qu'il ait grossi. Il est aussi jeune que l'année passée, sans rides, la police, les yeux vifs, marrons, la mèche de cheveux sans un rayon de blanc. Il est assis, les mains sur les genoux, un peu penché en avant. Il est incontestable qu'ainsi, vu de près, au repos, cet homme est sympathique. Par une certaine mélancolie dans le regard, par un soupçon de tristesse au coin de la bouche, par une timidité qu'on devine, le maître absolu de 70 millions d'Allemands les a tous charmés, hommes et femmes. Vous direz peut-être qu'il m'a séduit, moi aussi. J'ai trouvé un homme tout à fait naturel, où je m'attendais à rencontrer un César blasé. Et j'ai vu un Hitler qui n'a pas besoin d'un esclave qui lui donne des conseils de modestie pendant que son avion privé parcourt le ciel de l'Allemagne. « Tous ses collaborateurs d'aujourd'hui sont ses amis des jours de misère, » me dit le docteur H. « Il n'a pas un seul ennemi personnel, ce qui est surprenant pour quelqu'un qui a fait une carrière comme la sienne. La preuve, c'est qu'il ne circule pas d'anecdotes sur Hitler, parce qu'il n'en existe pas. On raconte des histoires touchantes sur sa bonté, oui. Ses camarades du front l'appellent « Der Gefreite des Weltkriegs », le caporal de la Grande Guerre. Et ils mettent autant de tendresse dans ces mots qu'en mettaient les soldats de Napoléon appelant l'empereur le petit caporal. Après quoi il se penche vers moi et dit très bas pour ne pas être entendu. Il est l'expression de la nostalgie allemande, Parsifal et Siegfried en une seule personne. Il représente aussi, sans aucune défaillance, l'idée nationale-socialiste allemande, sobriété, courage, beaucoup de cœur. Voilà les traits caractéristiques qui font de Hitler l'idéal que tous nous voudrions imiter. Quelques minutes de silence pendant lesquelles je m'aperçois qu'il flotte dans l'air du hall immense, je ne sais plus quelle allégresse. Quel esprit de confiance dans l'avenir! Il n'y a pas une seule voix rauque qui crie fort, pas une bouche qui mâche un gros cigare. Une grande distinction semble régner. On est fort bien dans ces fauteuils du Kaiserhof. En écoutant l'orchestre qui joue, encore, des opéras italiens, des mélodies de Gluck, ou peut-être faut-il dire Gluck, qu'aime Hitler, je sens se poser sur moi ses yeux couleur Havane. Le docteur H, qui me regarde triomphalement, me dit « Vous l'aimez, n'est-ce pas ?» Mais oui. Hitler me lâche enfin, se retourne vers ses amis et plaisante en racontant une histoire de son pays, du Midi. Il a la voix pleine et musicale que la TSF et le cinéma ont fait connaître. Après quoi il se lève, serre la main de ses amis de table et du docteur H, me fait un tout petit signe amical de tête et s'en va. Les huit petits chasseurs saluent en souriant. L'hôtel Kaiserhof n'est toujours pas gardé militairement. Et pendant plus d'une heure, Hitler s'est échappé de ses devoirs en faisant l'école buissonnière. En sortant, il fait le salut hitlérien. Le docteur H aussi s'en va, et avec lui tous ceux qui étaient à la table de Hitler. Me voici donc seul. Je reste quelques instants un peu étourdi, mais soudain voici qu'on me réveille. À côté de moi, trois bonnes femmes parées de robes et de diamants invraisemblables, et qui jusqu'à maintenant étaient restées figées dans le recueillement, se mettent à défaire des paquets de cigarettes américaines. Hitler n'étant plus là, ces dames fument comme des cheminées. Les hommes aussi. L'orchestre commence un air de jazz. Les garçons répondent de nouveau. « Ce n'est pas moi, voyez mon collègue. » Même les bébés chasseurs se conduisent mal. Les uns mettent le doigt dans le nez et les autres s'endorment. Le grand charmeur disparut, l'enchantement est brisé. Une voix rauque crie. « Obre, apportez-moi donc un grand verre de bière et enlevez-moi ce thé, Donnerwetter. Est-ce que nous sommes en Allemagne ou non ?» Le bébé chasseur le plus mignon reçoit d'un homme très mûr, qui arbore une cravate couleur saumon, une claque sur les fesses. Une demi-mondaine retrouve son activité. Le fureur parti, la vie berlinoise reprend son vrai visage d'autrefois. Une des trois bonnes femmes se met à raconter pourquoi on ne parle plus du mariage de Hitler et Frau Winifred Wagner. veuve de Siegfried Wagner et maintenant propriétaire du célèbre théâtre de Bayreuth. J'ai vu l'autre jour la fille de Madame Wagner et je lui ai demandé si sa mère n'en voulait plus du Führer. Et voilà la réponse. « Mais oui, madame. » Avant l'arrivée de Hitler au pouvoir, c'était maman qui ne voulait pas. Maintenant, c'est Hitler qui ne veut pas. « Admirable !» s'écrièrent les deux autres. « Elle n'a que ce qu'elle mérite, cette vieille Wagner. Une lâche qui n'osait pas prendre des risques. » Frau Goebbels a été autrement courageuse. Quelle femme épatante. Elle n'avait pas peur, elle. Déjà en 1932, oui. Et maintenant, c'est elle qui gouverne. Il paraît que Hitler ne peut plus se passer de ses conseils et l'on... Non, non, c'est vrai qu'elle est belle, Madame Goebbels, mais elle est encore plus intelligente. Vous avez entendu la dernière, la toute dernière? Non, non, racontez. Eh bien, savez-vous que Hitler va se marier? Non. Si, avec une Polonaise. Avec une Polonaise? Un mariage politique? Je n'en sais rien. Mais la mère ne veut pas. Elle dit qu'elle habite tellement à l'étroit qu'elle ne sait même pas où mettre un beau-frère. Eh bien, Hitler a répondu... « Je n'ai pas de très grandes prétentions. Je me contenterai du couloir. » Rire. Et toutes les trois, quelques secondes plus tard. « Le couloir ? Fabelhaft, fameux. On l'aura, ce couloir, on l'aura. » À une autre table, on parle du petit tank format de poche dont toute l'Allemagne connaît l'existence. Pas plus grand qu'une petite Opel Sport, juste la place pour deux hommes, moteur d'une puissance formidable, moteur diesel d'une formule inédite. Cela devient fatigant, toutes ces histoires d'armes nouvelles, de métaux nouveaux, d'avions silencieux et invisibles dont on parle partout. Je m'en vais. Et en me promenant sur la Wilhelmstrasse, où chaque maison est un palais officiel, lourd, sombre, ministère des Affaires étrangères, ministère de propagande, etc., je tâche de tirer quelques conclusions de ce que j'ai entendu et vu pendant un mois à Berlin. C'est à ce moment-là que je rencontre un jeune nazi que je connais un peu et qui me dit gaiement « Alors, le Führer vous a invité à prendre le thé au Kaiserhof ? Il n'a pas été très loquace à cette occasion. En effet, je vous ai observé. Ah, vous étiez là ? Mais oui, en civil. Nous étions une douzaine dispersés à des tables différentes. Et moi qui pensais justement écrire que l'hôtel n'était pas gardé, que Hitler se promène comme vous et moi, librement. » Le jeune nazi, qui n'a jamais parlé au Führer, dont le Führer ne soupçonne même pas l'existence, m'entraîne dans une Bierstube pour m'entretenir de son idole. Je voudrais vous expliquer, non pas mon amour pour Hitler, vous le connaissez déjà, mais la nécessité de cet amour. C'est que Hitler est le seul parmi nos grands capitaines qui soit vraiment digne de l'attachement que lui porte tout un peuple, les autres. Et il hausse les épaules. Les autres. Prenons Göring. C'est un homme très courageux, certes, mais aussi un comédien, un mégalomane, un mythomane même. Personne ne l'aime. Personne ne s'imagine qu'il peut être utile au national-socialisme. Et Goebbels, l'éminence grise de Hitler, courageux lui aussi, mais aimé seulement à Berlin. Il est vulgaire, il est intrigant. Nous craignons que l'influence de lui et de sa femme sur Hitler ne soit néfaste à la longue. Et après avoir réfléchi une minute, il continue. Vous voyez donc comment est nécessaire notre amour pour Hitler. Privé de la certitude qu'il est, lui, un saint, nous serions tous comme des moutons sans pasteur. Ce serait la fin du national-socialisme, de ce qui reste. Je crus remarquer une certaine amertume dans sa voix, et je le lui dis. « Peut-être, » me répondit-il. « Nous avons l'impression, nous jeunes, qu'on oublie trop l'idéologie du national-socialisme dans le livre d'Alfred Rosenberg, Mythos des 20. Jahrhunderts. On tolère encore des milliers de juifs en Allemagne. Et qu'est devenue la réforme bancaire de Gottfried Feder? Mais à qui la faute? Il y a trop de mauvaises herbes. La jeunesse qui ne veut connaître d'autre Führer que Hitler pourrait bien se décider à faucher un peu autour de lui. Nous demandons une épuration. Nous demandons aussi que le national-socialisme ne perde pas ce qu'il a de socialisme pour devenir exclusivement du nationalisme. Cela nous conduirait rapidement à la restauration monarchique. Röhm, baron de Potsdam, Goebbels, comte de Berlin, Göring, duc d'Orianenburg. Ces messieurs n'attendent que l'arrivée d'un Kaiser pour demander ses lettres de noblesse. « Vous en êtes sûr ?»« Oui. » »« C'est un fait. Les meilleurs amis de Hitler, des fanatiques comme le jeune nazi en face de moi, tous ceux qui ne sont pas aveuglés par sa gloire, commencent depuis quelque temps déjà à être inquiets pour leur héros. C'est dans l'air, et ça date. Oh, ça doit dater du jour où la majorité des nazis a commencé à faire le salut machinalement, sans enthousiasme, tout en prononçant un Heil Hitler assez automatique. Heil Hitler, bonjour, ça va? On ne jette pas un cri de triomphe comme on prononce une simple phrase de politesse. Non, ça ne va pas aussi bien que naguère. Et que faire pour animer l'enthousiasme d'antan, une guerre? Le jeune nazi ne me répond pas tout de suite. Il me semble qu'il est un peu gêné. Enfin, il me dit « Un écrivain français a écrit « Dieu gagne à être connu ». Eh bien, Hitler aussi. Pourquoi les Français n'invitent-ils pas le Führer à venir à Paris? Il accepterait sûrement. » Excellente idée. Seulement, vous vous rappelez peut-être que Stresemann est allé à Paris et qu'après il a écrit au Kronprinz certaines lettres méchantes, méchantes pour l'homme qui l'avait invité. Hitler écrirait peut-être lui aussi des lettres pareilles au Kaiser. Pas de réponse. Nous nous quittons assez froidement. En traversant la Wilhelmstrasse, je vois que mon nazi entre dans le sombre bâtiment du ministère de propagande. Qu'est-ce qui m'empêche de croire que Hitler a regretté son silence dans le hall du Kaiserhof et qu'il m'a envoyé un messager pour que je dise au lecteur de Candide que le Führer serait bien heureux d'être reçu à Paris? Ainsi s'achève La chambre de Hitler par Iman Bjarn. Je rajoute une note, indiquée en bas de page, concernant Oranienburg, cité précédemment au sujet de Göring. Le plus grand camp de concentration de toute l'Allemagne, connu pour la discipline sévère qui règne et pour le grand nombre de prisonniers abattus en essayant de fuir.